Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est FAQ.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde.
Oh, OK, ça marche.
Petit problème technique, le jingle n'a pas embarqué, mais bienvenue à tous en ce 11 décembre. Belle journée avec une belle petite bordée encore ce matin. Donc, d'entrée de jeu, on a un invité avec nous aujourd'hui. Puis, premièrement, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas Renaud Duval à l'animation aujourd'hui. C'est moi, Julien Moschlener, mais Renaud est quand même parmi nous.
Bonjour, bonjour.
Donc, Félix est avec nous aussi aujourd'hui.
Toujours présent.
Et notre invité, Lily-Jeanne.
Salut. Bonjour.
Donc, comment vous allez ce matin, cet après-midi en fait?
Oh, ça va bien. Même si c'est la fin de session, on va y arriver, je suis optimiste.
Ouais, c'est Noël dans quelques jours.
Deux semaines.
Ouais.
Avez-vous acheté vos cadeaux?
Non. Pas encore. Ma liste n'est pas faite non plus. Ma mère me marcelle un peu aussi pour me demander de faire ma liste le plus tôt possible. Je m'excuse, maman, je fais ça bientôt. Donc, d'entrée de jeu, on a plusieurs sujets d'actualité sur notre table ce matin. Donc, premièrement, la grève du secteur public qui se poursuit cette semaine. On est à la deuxième journée d'une série de 5 jours de grève qui va se terminer, je dis ça entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer pour vrai. Mais jeudi le 14, donc est-ce qu'il y en a un de vous qui aimerait un peu élaborer là-dessus? Sinon, moi, je vais pouvoir... Félix, Lily-Jeanne, absolument pas. Parfait.
Ben, c'est pas le dossier que j'ai le plus suivi, mettons. On va dire ça comme ça. Par contre, ça reste quelque chose de très important qui se passe au Québec en ce moment. Donc, c'est assez paradoxal, mais il y a tellement de choses dans l'actualité en même temps. Ce que je peux dire, en tout cas, que j'ai appris dans les derniers jours, c'est que si on est en grève jusqu'au 14 décembre, ce qui s'enligne pour être le cas, eh bien, on va se retrouver avec la plus grande grève dans le secteur public depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis le Front commun 72, on avait parlé dans un épisode précédent. Donc, c'est quelque chose de majeur qu'on vit en ce moment, là, au niveau historique.
Mais j'ai l'impression qu'on est tellement submergé par toutes sortes d'actualités, de toutes sortes de trucs qui se passent, comme que ça sature. Tu vois, genre, c'est là que je réalise, pendant que tu en parles, que c'est historique, mais c'est tellement comme... mis sous couvert, mais on est tellement, il y a tellement de stock que c'est difficile de suivre.
C'est comme, j'ai vu aussi qu'il y a eu un congrès des enseignants, puis qu'il y avait Bernard Drainville qui avait fait une allocution filmée, puis des fois il disait des affaires, puis les gens ils partaient à rire dans la salle, là, dans le sens que le climat est vraiment détérioré entre les deux parties. Le gouvernement fait des contre-offres, le syndicat fait des contre-offres, le Front commun fait des contre-offres, on n'a pas encore trouvé un terrain d'entente. On sent aussi que le ton monte. On n'est pas rendu à parler de grève spéciale, de loi spéciale, pardon, mais on parle de grève générale limitée en revenant des fêtes. Donc, c'est pas sur le point de s'adoucir, disons ça comme ça.
Non, c'est ça. Puis il y a une offre qui a été déposée sur la table la semaine dernière, offre qui a été refusée évidemment parce qu'on était loin de rejoindre les demandes des syndicats. Donc, ça va être à suivre pour ce dossier-là. Lily-Jeanne, tu as quelque chose à ajouter?
Ben, oui, mais tu sais, moi, j'ai des amis qui sont encore au cégep, puis c'est vraiment comme un gros questionnement parce qu'ils sont genre, mais là, qu'est-ce qui arrive avec notre session? Tu sais, ça marche aussi au secondaire. Est-ce qu'ils vont prolonger? Tu sais, ils étaient censés avoir les examens cette semaine, ils l'ont cancellé, puis là, ils le font. C'était peut-être une possibilité de le faire durant les congés de Noël. Tout le monde a fait, ben non. Puis là, ça veut dire qu'ils vont prolonger peut-être au mois de mai, au mois de juin. Puis là, ça fait un peu capoter les étudiants du cégep. Fait que ça aussi, c'est un autre questionnement à avoir là, par rapport à ça. Là.
Ils prennent nos jeunes en otage. Ça, c'est le discours du gouvernement. Mais ben oui, ben, ça reste un fait. Ça reste un fait quand même. Mais après, ça invalide pas la légitimité des demandes des syndicats, je pense, non plus.
Absolument pas. Puis je pense que la population... En soi, nous devons aussi faire un front commun pour soutenir le mouvement du front commun, d'avoir des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Puis je pense que ça va aider non seulement à un peu changer l'image qui est ternie un peu de certaines de ces professions-là, surtout la profession d'enseignant. Tu sais, c'est beaucoup remis en question. Bon, la population, il y en a plusieurs qui disent que les enseignants sont bien payés puis ont des vacances pendant tout l'été, mais écoute, ils ont beau être en vacances tout l'été, mais à quantité d'heures supplémentaires qu'ils font pendant la semaine à s'occuper des enfants de tout le monde, Je pense que...
Bon, même des heures supplémentaires pendant leurs vacances.
Ouais. Faut pas se le cacher, ça aussi.
Puis, ben, j'écoutais le point de presse qu'a fait le gouvernement pour résumer la session parlementaire. Ils ont abordé toutes sortes de sujets, mais notamment, ils ont abordé la grève. Puis vraiment, j'étais surpris de voir que ce qui revenait, c'était pas tant l'aspect financier qui est la... Donc, eux ils sont encore ouverts à monter en termes d'offres financières, salariales. Par contre, au niveau des conditions de travail, vraiment, ils martèlent la nécessité de plus de flexibilité puis de souplesse. C'est encore là, c'est quelque chose qui est plutôt mal reçu au niveau syndical et au niveau des enseignants, tout ça. Donc, à suivre.
Ouais, bon, on va s'enligner sur un autre sujet. Renaud, je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais. L'annonce, l'Azerbaïdjan qui va host, pardonnez-moi l'anglicisme,
accueillir
la COP29.
Ben non, mais... OK, j'avais entendu que c'était quelque chose qui était envisagé. Là, on aurait une confirmation ce matin que la prochaine COP, on n'a même pas fini celle-là, se déroulerait en Azerbaïdjan. Je veux dire, c'est rajouter une insulte à l'injure. Déjà, c'est assez ridicule, puis une insulte à l'intelligence que d'avoir une COP qui est élue dans une pétromonarchie autoritaire, soit Dubaï. Mais là, on viendrait faire la prochaine COP encore dans un régime autoritaire pétrolier, parce que l'Azerbaïdjan, c'est sur cette base-là, le pétrole, le gaz, que son économie fonctionne. Mais en plus de ça, ben on en a parlé pas mal cet automne, du fait que l'Azerbaïdjan est en train de commettre un nettoyage ethnique dans le territoire du Haut-Karabakh envers les Arméniens, un régime qui tient un discours au contour très génocidaire sur le sort des Arméniens. Je veux dire, comment on peut concevoir qu'une telle chose est acceptable? Imaginez que je vous dis, ouais, la prochaine COP est en Israël, dans le contexte actuel. Ouais, tu sais, ça... Ah ouais, ça,
ben,
ça...
C'est une insulte. On
mais c'est ça, c'est... Puis ça revient à l'enjeu de l'Arménie qui est complètement oublié par tout le monde, encore une fois. On peut faire des vœux pieux là, sur de quoi que oh, on les aime donc, puis tout ça. Mais concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient encore donner un chèque en blanc à l'Azerbaïdjan, dire c'est correct, on continue comme ça. C'est insultant.
Ouais. Avez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? Ben,
c'est un truc récurrent quand même, hein, parce qu'on l'a vu, exemple, l'année passée, en 2022, avec la Coupe du monde qui était au 14.
Ouais, au 14.
Puis ça l'a tellement fait blabla par rapport à comment ils traitaient les employés. Puis on l'a laissé faire. Fait que c'est juste quelque chose de récurrent, que c'est juste un jeu de sous-table d'argent, etc. Est-ce qu'on veut leur donner l'influence, le soft power, et là, une fois qu'ils vont l'avoir, ben ils vont être rendus dans les valeurs correctes de la société, tu sais, qu'on met ça sous table. Puis moi, c'est pas quelque chose que je suis comme « yes, let's go ».
Ouais.
Je me dis « on boycotte-tu, on boycotte-tu pas ».
Ben c'est ça. Déjà que l'enjeu du boycott de la COP actuelle était gros sur la table, là, on va voir là, s'ils vont réussir à arriver à un accord qui a de l'allure. Mais même s'ils arrivent à un accord qui a de l'allure, je veux dire, l'accord de Paris, par exemple, c'était bien beau, mais il n'y a personne qui a respecté ses promesses en l'accord de 2015. Donc, même s'ils s'engagent à faire certaines choses, est-ce qu'ils vont les respecter? C'est un milieu qui est complètement noyauté par les lobbyistes de l'industrie pétrolière, pétrochimique. Regarde, là, c'est ça, il va vraiment falloir commencer à se poser de plus en plus sérieusement la question, c'est quoi la crédibilité de ces conférences-là? Puis voilà.
Ouais, puis comme j'ai lu dans la presse ce matin, on va pas trop aller dans qu'est-ce qu'il y a de l'allure ou pas, mais selon les dernières nouvelles, on s'éloignerait encore plus d'éliminer les énergies fossiles, puis plutôt... On est plus encore dans un axe de réduction des énergies fossiles. Là. Donc, écoute, les enjeux puis les accords qui avaient été signés pour 2035, ben on s'éloigne encore plus d'être rendu où est-ce qu'on voulait en être rendu lorsque ça a été signé. Donc, écoute, ça va être à suivre encore dans les dernières semaines parce que la COP28 n'est pas terminée encore. Mais écoute, ça va être à voir pour la suite. On va continuer après ça. Ben écoute, on va parler des... On revient dans notre petit coin de pays. Là, on va parler des sondages Léger qui est sorti jeudi dernier, qui démontre encore plus le déclin de la CAQ. Et écoute, une montée, ma foi, glorieuse du Parti québécois qui formerait un gouvernement minoritaire aux prochaines élections.
Ouais, c'est ça. Si la tendance se maintient, c'est ça. le Parti québécois a une montée vraiment extrêmement rapide, extrêmement fulgurante dans les sondages. Mais moi, voyant ça, étant militant du Parti québécois, j'ai quand même un degré de précaution face à ça. Parce que est-ce que c'est une adhésion au projet du Parti québécois, une adhésion à la souveraineté, ou si c'est pas avant tout un rejet de la gouvernance caquiste actuelle? C'est pas mal plus ça, à mon sens. Donc, il faut faire attention quand on analyse ce sondage-là, de ne pas voir trop...
De ne pas s'enflammer.
Ouais, c'est ça, puis de penser que voilà, c'est clair désormais, le Parti québécois forme le prochain gouvernement. Ben, quoique, je pense que parmi les partis d'opposition, c'est celui-là qui a beaucoup, qui a vraiment de loin le plus de chances. Mais quand tu regardes, par exemple, les appuis à la souveraineté au Québec, ça reste assez faible là, dans les sondages. On parle de à peu près 35%, puis... C'est ça, encore une bonne proportion de gens qui ne savent pas trop, mais une majorité qui est encore fédéraliste. Ben, quoi que les gens ne se définissent pas comme fédéralistes, c'est toujours drôle. Là. Ils, quand tu leur poses toutes les sous-questions de c'est quoi la souveraineté, c'est-à-dire voulez-vous les pleins pouvoirs en culture, les pleins pouvoirs en immigration, les pleins pouvoirs en ça, ils sont toujours pour. Puis quand tu leur demandes, hey, dans le fond, voulais-tu la souveraineté, ils sont comme, oh non! Parce que ça fait peur.
Mais c'est ça, justement. Il avait fait un sondage il n'y a pas longtemps, puis c'était juste 34% de la population qui voulait la souveraineté. T'sais, rendu là, est-ce que c'est plus un mouvement on est juste anti-cac, on vote pour n'importe qui d'autre? Ça reste à voir, là.
C'est ça. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai de la misère à concevoir que la CAQ puisse tomber plus bas qu'elle tombe en ce moment. À partir de maintenant, elle peut juste remonter, là. Ouais.
100%. Puis, tu sais, on ne va pas se cacher non plus que les enjeux dont lesquels on parle en ce moment... Est-ce qu'on va encore en parler dans 3-4 mois? Faut se dire aussi que les élections sont juste en 2026, donc l'échiquier a le temps de bouger encore énormément. Est-ce que le PQ va rester au sommet des sondages? Ça va être à voir. Puis pour la suite, on vous revient après la pause avec la première chronique de la journée qui va être faite par Félix sur le projet de loi 15. À tout de suite! Bon, encore une fois, on a un petit problème avec nos jingles, donc on va revenir en ondes tout de suite. Pardonnez-moi les...
C'est pas très musical
à la maison.
Matin, c'est bon, on peut ça, le faire, mais...
Ouais. Vas-y, Félix, avec ta belle voix. Bon, ben bon retour parmi nous. Donc, pour suivre la pause, Félix va nous présenter une chronique sur le projet de loi 15, parce qu'il y a eu des développements là-dessus ces derniers jours. Donc, Félix, je te laisse la parole.
Oui, ben c'est fort intéressant, vous allez voir. Donc, samedi dernier, ben, le projet de loi 15, ou mieux connu sous le nom d'ultra-méga précipité réforme de la santé, du ministre Dubé, a été adopté dans la controverse, une controverse qui s'ajoute d'ailleurs aux nombreux scandales que le gouvernement porte sur ses épaules depuis quelques mois. L'adoption du projet de loi est extrêmement contestée parce que la CAQ a fait l'usage de ce qu'on appelle un bâillon. En gros, c'est une procédure parlementaire qui est adoptée par le gouvernement afin que les délibérations et les discussions sur un projet de loi soient limitées. En gros, on coupe. Il y a quand même des discussions en commission parlementaire, mais on coupe ce cours. T'sais, ça veut dire quand le gouvernement décide que c'est fini, ben c'est fini, puis on passe à l'adoption. Puis ben, les discussions parlementaires, c'est super intéressant, c'est super important parce que ça permet aux partis, même s'ils sont minoritaires ou qui sont dans l'opposition, d'ajouter des trucs, ben, de façonner un peu à leur image le projet de loi, même si le gouvernement est majoritaire. Puis ben là, c'est ça, le gouvernement n'a pas fait ça. Il a adopté le bâillon pour couper court les discussions puis adopter directement son projet de loi en chambre. Mais bon, on va en parler. Donc, on utilise généralement comme un bâillon quand on veut faire passer un projet de loi en vitesse pour éviter qu'il soit mis en branle par les discussions, qu'il soit trop mis en branle par les amendements parlementaires. Et c'est ce que la CAQ a fait pour sa réforme de la santé. Mais en quoi elle constitue cette maudite réforme? Bon, le document, il fait 308 pages, puis c'est le deuxième projet de loi après le Code civil du Québec, le plus long de l'histoire du Québec. Donc, vous me pardonnez si je coupe un peu les coins et que je mets certains éléments, mais on va essayer de faire ce cours. Donc, le PL15, c'est un projet de loi présenté par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui propose, et je cite, de renouveler l'encadrement du système de santé et de services sociaux. Il a pour objet de mettre en place un système efficace, notamment en facilitant l'accès des personnes à des services de santé et à des services sociaux sécuritaires et de qualité, en renforçant la coordination des différentes composantes du système et en rapprochant des communautés les décisions liées à l'organisation et à la prestation des services. Donc là, on peut lire clairement bon, une volonté d'amélioration du système de santé, mais aussi une espèce de... je pourrais dire, décentralisation, de rapprocher les services des gens. Mais vous allez voir, vous ferez votre propre avis avec les développements que je vais vous apporter. Donc, pour réaliser cette volonté-là, le plan du ministre Dubé, ben, il vise entre autres à créer une société d'État, Santé Québec. La loi vise à intégrer les CIUS, c'est-à-dire les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, et les CIS, les centres intégrés de santé et de services sociaux, à Santé Québec, et donc d'uniformiser les systèmes de santé partout au Québec. Ça veut dire que les citoyens qui ont besoin de soins pourront se présenter dans n'importe quel établissement de santé ou de services sociaux sans qu'il n'y ait aucun problème ou aucune confusion en lien avec le code postal ou l'endroit où on réside. Donc ça, c'est quand même, quand on y pense, c'est quand même un point positif. Aussi, il y a les employés des différents CIS et CIUS qui seront mis sur une liste d'ancienneté commune et ça va notamment permettre la mobilité des employés à travers la province. Ça veut dire que si on a un besoin, si la Santé Québec observe qu'on a un besoin, admettons, au Saguenay, je sais pas, d'infirmières, ben, on va en prendre d'Abitibi puis en amener au Saguenay. Bon, c'est très robotique, je trouve, mais... Mais bon, il y a plusieurs acteurs qui ont critiqué justement ce côté-là. Puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va venir du ministère de la Santé dans tout ça? On dit qu'il sera désormais responsable uniquement d'émettre les grandes orientations de l'agence, puis de la mettre en place. Donc, ça, il va plus agir comme un superviseur, si je pourrais dire. C'est lui qui va orienter, puis c'est pas lui qui va diriger Santé Québec, parce que ça va être comme Hydro-Québec, ça va être... C'est une société d'État, il va y avoir un PDG.
PDG qui va probablement être nommé quand même par le ministre de la Santé.
On gage combien qu'ils vont encore aller chercher un Ontarien parce qu'ils sont dans... Non, c'est une blague. Parce que Michael Sabia, le PDG, le nouveau PDG d'Hydro-Québec, est un Ontarien, mais c'est une blague. Puis j'ai pas grand-chose contre les Ontariens, à part qu'on peut quand même faire le call.
À part que les médecins québécois gagnent plus que les médecins ontariens, mais ça, c'est une autre histoire. Hein.
Mais comme disait Richard Desjardins, Ontarien... On t'a rien demandé. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Puis les employés du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est sûr qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver, mais on se doute fort probablement qu'ils vont être transférés au fur et à mesure puis qu'ils vont être accommodés là, justement à cette nouvelle organe-là. Puis comme vous l'avez certainement observé depuis quelques jours, le projet de loi, puis son adoption, a fait énormément jaser. Évidemment, pour les mauvaises raisons, parce que c'est un projet de la CAQ. Non, mais bref. les partis d'opposition, ils critiquent le fait que le gouvernement a fait passer un des projets de loi les plus importants dans l'histoire du Québec sans le soumettre au débat parlementaire. C'est la critique notamment qu'on a pu observer chez le Parti québécois qui j'ai l'impression, ont plus centré leur critique là-dessus que vraiment sur le projet de loi en lui-même, mais c'est légitime aussi. D'autres partis d'opposition émettent aussi certaines réserves sur le projet de loi en lui-même. Plusieurs acteurs de la société civile, en plus des parlementaires, remettent grandement en question la pertinence du projet de loi et de sa réelle capacité à résoudre les problèmes du système de santé. Par exemple, le Collège des médecins du Québec, en fond qui est l'ordre professionnel des médecins, souligne le fait que le gouvernement fait un faux pas en s'attaquant uniquement à l'organisation des soins en santé et en laissant de côté les soins de proximité. C'est-à-dire que... dans le fond, qui serait pour eux, les soins de proximité, ça serait une solution plus efficace pour contrer l'engorgement des urgences, parce que ça permettrait d'éliminer le problème à sa source, c'est-à-dire de limiter le nombre de personnes qui se présentent à l'urgence. Alors que le plan de Dubé, il s'oriente plus dans une logique de « on va modifier comment on gère l'urgence pour peut-être faire passer plus de monde », alors qu'on pourrait plus facilement, puis de manière moins comme scandaleuse, parvenir à une solution du problème en attaquant le problème à sa source. Le Collège des médecins, il souligne aussi d'autres angles morts du PL15, notamment ce qui concerne le développement technologique ou la place de l'environnement dans le système de la santé. Il y avait d'autres points aussi, mais en gros, il trouve que c'est dommage que le gouvernement met de côté des éléments qui sont certes, je pourrais dire, qui semblent anodins, mais qui sont tellement importants, justement, dans le renouvellement de l'équipement dans les systèmes de santé, qui fait aussi partie du problème, puis de la place dans de l'environnement, qui est un enjeu qui... Tu sais, on sait que le système de santé, veut pas, ça produit quand même beaucoup de déchets, puis il n'y a aucun... puis aussi avec les énergies et tout, donc, puis il n'y a aucun... Dans le PL15, il n'y a aucun... Genre, à aucun moment, on aborde cet enjeu-là, ou on le considère. Maintenant, dans les partis, les députés de Québec solidaire ont toujours critiqué la pertinence de ce projet de loi. Puis GND l'a même qualifié de parachèvement de la réforme Barrette. En plus de souligner que le PL15, il s'inscrit dans une tendance de centralisation du système de santé qu'on peut observer au Québec depuis les dernières décennies. Le PQ, tant qu'à lui, comme j'ai dit tantôt, il s'indigne quant au caractère non démocratique de l'adoption du PL15, puis de la mise de côté justement de tout ce qui est procédure parlementaire. C'est comme un peu, il qualifie d'une sorte de blague. C'est comme on se fait niaiser. Puis les libéraux, ils soulèvent eux aussi la pertinence de ce projet de loi-là comme une réelle solution à la crise du système de santé, ce qui est plutôt hypocrite pour nos chers amis libéraux. bref, la CAQ s'offre encore un beau scandale là, en forçant l'arrêt des délibérations sur rien de moins que la réforme du système de santé. Qu'on le sait, au Québec, c'est un enjeu extrêmement important que tout le monde en est conscient. Tout le monde, c'est peut-être l'enjeu politique sur lesquels les gens sont comme je vais apporter des nuances, mais qui sont le plus au fait malgré le fait qu'ils soient pas politisés. La CAQ fait tout ça parce que le ministre de la Santé est tanné. Espèce de gros bébé.
En même temps, je veux dire, ça doit être un travail absolument colossal, puis le travail n'est pas fini. On n'a pas encore fait la mise en œuvre du projet de loi, mais c'est un travail colossal d'aller chercher autant d'articles, de faire autant de consultations qu'il y en a faites, de mise en comble, de fond en comble, aller fouiller dans différents systèmes, les méthodes de fonctionnement.
Mais son projet de loi, il est fini. Sa version à lui est finie. Lui, il est tanné des procédures.
On passe en commission parlementaire.
Il disait, ça fait déjà 200 heures qu'on étudie ce projet de loi-là. Je suis tanné.
Oui, c'est ça. Puis comme Paul Saint-Pierre Plamondon l'a mentionné en entrevue aussi, là, il restait quelques semaines encore d'études du projet de loi. Là, parce que pour vous mettre en contexte, là, oui, c'est un projet de loi qui a 308 pages. Mais c'est un projet de loi qui comporte aussi là, au-dessus de 1500 articles au total. Donc, écoute, ça fait déjà quelques semaines que le projet de loi est en commission parlementaire afin d'apporter des amendements, d'étudier les bons points puis les un peu moins bons points. Puis là, écoute, c'est un peu une indignation de complètement stopper le processus parlementaire puis d'accepter le projet de loi en soi. Donc, écoute, c'est des procédures qui vont quand même être à suivre parce que là, on arrive bientôt aux vacances de Noël pour l'Assemblée nationale. Donc, premièrement, il allait déjà avoir, il allait déjà avoir une certaine échéance pour qu'on recommence après les fêtes. Mais là, écoute, on n'en entendra plus nécessairement parler de ce projet de loi-là après les fêtes, outre que sa mise en œuvre. Donc, c'est un dossier chaud actuellement.
Puis le danger... Il y a le danger aussi de... Je trouve qu'il y a autre le fait de... Tu sais, qu'est-ce qui diffère de cette coupure-là que... Puis l'espèce d'échéance, tu sais, c'est le fait que ce soit le gouvernement qui décide que, ah, OK, là, c'est assez. C'est terminé, on finit, on l'adopte. Mais bon, au moins, on peut se rassurer en se disant que la mise en place va être progressive, puis que c'est sûrement... Tu sais, on va sûrement peut-être pas en entendre parler de la part du gouvernement, mais j'ose croire, j'ose espérer que... Il y a beaucoup de syndicats qui se sont prononcés là-dessus, sur le fait que c'est antidémocratique. Puis je trouve que c'est... Je comprends pas trop, honnêtement, le gouvernement. Je trouve que c'est des mauvais... Bon, je ne veux pas trop me prononcer, mais je trouve que c'est des calculs étranges, questionnables, des calculs politiques.
Les calculs coûts-bénéfices ne semblent pas avoir été faits par le ministre du pays à l'heure actuelle.
Je sais que dans notre émission, on critique beaucoup la CAQ, mais en tout cas, vous allez voir avec ma chronique que justement, pour d'autres projets de loi... on peut saluer leur travail. Je vais le faire, vous allez voir, ça va être surprenant.
Non, mais
c'est légitime, c'est tout à fait légitime. C'est correct.
Merci, Renaud. Mais un truc, je voulais dire, il faut quand même s'interroger sur pourquoi ils ont fait le baryon, pourquoi ils voulaient le faire avant la fin de la session parlementaire. Parce que j'ai lu les journaux, puis un truc qui a fait du sens là, quand je l'ai lu, c'était que, exemple, la fin de la session parlementaire, elle arrive bientôt, dans deux semaines. Oui, ça va être une genre de mort au feuilleton. T'sais, il va falloir qu'ils remettent, là, si je veux dire. Mais pendant le congé des fêtes, c'est que, t'sais, exemple, on voit Gabriel Nadeau-Dubois qui en parle partout, qui a fait son speech après 15 heures de débat, là, full speedé. T'sais. Props à lui, c'était un speech très inspirant aussi, là, après 15 heures sans dodo. Puis, lui, c'est du genre, il va être du genre à le dire sur les réseaux sociaux, tu sais, qu'est-ce que ça fait le projet de loi 15? Non, 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 on le veut pas. Et là, la population va se lever, va faire, oh, tu sais quoi, il a raison. Fait que le temps des fêtes donne le temps à la population, à l'opinion publique, de dire à Legault, hey, on le veut pas tant que ça. Fait que c'est pour ça qu'il l'a adopté tout de suite quand on y pense, parce que comme ça, il s'évite une genre de crise de la société. Ouais.
Puis aussi, avec le nombre incroyable d'articles qu'il y a dans ce projet de loi-là, ça donne encore plus le temps aux députés durant le temps des fêtes d'étudier de façon détaillée mm-hmm. chaque article, puis de considérer, d'appeler des gestionnaires de CLSC ou de je sais pas trop, puis de dire ouais, t'en penses quoi de tout ça, de tout ça.
Mm-hmm. Ouais.
À voir.
Mais c'est ça.
Mais super, merci pour ces interventions. Félix, très belle chronique. Merci de nous mettre à jour un peu plus sur ce projet de loi-là, duquel on a déjà discuté au cours de la session. Donc, on va enchaîner avec la chronique de Lily-Jeanne. Premièrement, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler des NASCAPI qui adoptent une constitution.
Parfait. Donc là, comme probablement la plupart des gens qui nous écoutent, c'est qui ça, les NASCAPI?
Ouais, OK. Ben, pour une petite mise en contexte, les NASCAPI font partie des 11 nations autochtones. C'est vraiment une petite communauté située au nord du Québec. Puis ils comptent environ 1450 membres. Tu sais, c'est vraiment une petite communauté, là.
C'est dans le coin de Schefferville, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Ouais, ouais. Quand même proche. Le nom, là, il est un peu compliqué. Kawawashikamash.
Excusez-nous pour la prononciation.
Oui, désolée pour la prononciation, on n'est pas des experts. Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est pourquoi je vais en parler, c'est que la semaine passée, il y a quelques semaines dans le fond, là, Radio-Canada avait fait un article sur ça, puis ça m'avait vraiment intéressé, puis j'avais fait d'autres recherches et j'en ai pas trouvé. Il y a vraiment personne qui parlait de ça. Fait que je suis comme, mais tu sais quoi, moi, je vais le faire. Fait que ce qui est intéressant chez les NASCAPI, c'est leur statut juridique. Parce que ça, c'est très important à comprendre pour pourquoi ils adoptent cette constitution-là. Parce qu'à la fin des années 70, ils ont signé la Convention du Nord-Est québécois. Fait qu'avec cette entente-là, ils bénéficiaient maintenant des droits territoriaux des ancestraux. C'est quand même important, tu sais, pour leur territoire, surtout au nord du Québec. Puis depuis la Convention, ils ont un régime territorial qui leur assure des droits exclusifs de chasse, de pêche puis de piégeage, qui sont leur principal mode d'économie, tu sais. Puis aussi, ça leur accorde d'autres avantages de droits, de titres sur le territoire, au même titre que les Cris et les Inuits. Puis après ça, en 84, ils ont fait la loi sur les Cris et les NASCAPI du Québec. Donc, les NASCAPI sont soustraits de la loi sur les Indiens. C'est quand même un avantage parce qu'ils regagnent certaines libertés, bien qu'ils peuvent encore avoir le statut, là, je mets en parenthèse, d'Indien. T'sais? Puis ça leur donne une grande autonomie administrative. Fait qu'ils ont des pouvoirs de réglementation quand ils pensent, là, puis c'est très, très important. Et c'est pour ça qu'ils se différencient des autres nations. Fait qu'avec toute question-là, ils se sont dit, bien, tu sais quoi, on a le pouvoir dans nos mains pour faire notre propre constitution et on en est capable. Puis c'est ça qui est important. Puis, bon, maintenant, on va parler de la constitution, là. Le vrai nom, c'est l'Entente sur l'autonomie gouvernementale NASCAPI Canada. En gros, je vous le résume, ça a pour but de redonner à la nation NASCAPI le pouvoir de légiférer dans les juridictions exercées par le Canada. Plus précisément, la nation NASCAPI cherche à adopter ses propres projets de loi, mais sans l'intermédiaire du gouvernement fédéral. On pense par exemple à ceux de la langue. Un texte peut être écrit, exemple, en NASCAPI au lieu d'être obligatoirement en anglais ou en français. Ça, c'est très, très intéressant, je trouve, pour ma part, parce que la langue NASCAPI, c'est vraiment une langue qui est très peu parlée. Fait que ça va permettre de peut-être faire découvrir la langue à d'autres personnes. T'sais, c'est vraiment un enjeu de culture aussi. Là. Mm-hmm. Puis quand on pense à d'autres choses que ça leur permettrait de faire, ça serait les programmes sociaux. Et ils pourraient prendre en compte la protection de la jeunesse puis de l'éducation. Ils vont pouvoir gérer sur leurs réserves eux-mêmes. Est-ce qu'on met des écoles? Comment on protège nos jeunes? Puis plein d'autres choses comme ça, parce qu'on sait qu'avec les pensionnaires, ça allait faire un gros boom très important. On va pas retourner dans les
détails.
Oui, parce que moi, je trouve que c'est un truc très, très triste qui me fait pleurer à toutes les fois. Je veux pas m'embarquer là-dedans à la radio, tu sais. Bon. Mais évidemment, la Constitution permettrait d'encadrer, de clarifier les interactions entre les paliers gouvernementaux, mais aussi faire une transition entre les lois de bande, les lois fédérales, puis les provinciales aussi. Puis ce que je trouve super intéressant, c'est surtout l'accent collectif qu'ils ont mis sur la Constitution. Parce que pour mettre en place la Constitution, la communauté a mis sur pied un comité de 10 à 15 personnes issues de leur propre communauté qui se sont chargées de sonder leur père. C'est vraiment une rédaction collective, autant par la participation des hommes, des femmes, des jeunes, des aînés. Puis tout ensemble, ils discutent des enjeux liés à la nouvelle organisation qu'engendrait cette constitution-là. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment comme... Ils ont gardé, malgré la colonisation, l'assimilation, vraiment leur idée de c'est important la famille, c'est important la communauté, on va vraiment s'entraider. Fait que ça, c'est une autre chose que je trouve tellement motivant par rapport à ça. Puis maintenant, parlant des questions que ça l'engendre. Là, il y a beaucoup de choses parce que c'est un gros processus juridique. Fait que le premier questionnement, c'est ce qui a trait au modèle de gouvernance. Présentement, chaque nation autochtone est dirigée par son propre conseil de bande. On le sait, ça, c'est comme ça, ça agit à type municipal, puis ça a été instauré par la loi sur les Indiens par le fédéral. Puis certains ont aussi un chef héréditaire depuis la Convention constitutionnelle. Mon Dieu, je me mets la loi constitutionnelle. Désolé, les amis, de 82. Par contre, par l'autodétermination qu'ils vont avoir les Naskapi, il y aurait la possibilité de dissoudre le conseil de bande, comme l'a déjà fait la communauté Kluane au Yukon en 95. On peut faire comme une communauté en Colombie-Britannique qui pourrait se doter d'une chambre législative, d'un pouvoir exécutif, même d'un conseil des aînés. Les possibilités sont vraiment illimitées. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il va falloir déterminer. Après, qu'est-ce qu'on fait si les gouvernements fédéral et provincial ne reconnaissent pas la nouvelle constitution? Parce que légalement, une fois la constitution rédigée, ils veulent le faire par référendum, puis elle serait adoptée, ce qui ferait en sorte que ça l'obligerait les gouvernements de partout, autant à l'international que provincial, fédéral, d'accepter, ça obtient la majorité simple des votes, là on parle de 50 % et plus, pas 50 % plus 1, mais ça reste à savoir qui serait consulté par le référendum. Est-ce que ça serait les Naskapi seulement? Est-ce que ça serait la population du Québec, du Canada? On le sait pas. Puis aussi, il reste à voir si les gouvernements vont accepter l'issue du vote. T'sais, on veut pas qu'il se passe la même situation qu'au référendum de 95, que ça soit très serré, puis qu'on se dise « qu'est-ce qui se passe? » T'sais, on veut pas ça. Fait qu'au final, c'est vraiment un enjeu de reconnaissance. Parce que, oui, check, en 2021, le Canada a reconnu que c'était important l'autodétermination pour les peuples autochtones. On voit qu'ils tentent de faire un pont avec les communautés autochtones, mais le principe, il n'est juste pas respecté jamais, puis on le voit avec les multiples tentatives de réconciliation qui aboutissent à rien. Fait qu'à la lumière de tous ces questionnements-là, il reste à voir comment les négociations vont évoluer entre le Canada et les Naskapi, mais aussi avec le Québec, qui est un acteur quand même important, même si ce n'est pas dans leurs compétences attribuées. Puis il s'agit d'un long processus législatif et même judiciaire qui comporte beaucoup d'obstacles, mais la nation Naskapi a espoir de voir le fruit de son travail en 2025.
Nice.
Oui.
Moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc, ouais. Tu as parlé qu'il y avait quand même un précédent avec d'autres nations qui se sont créées des chambres législatives, mm-hmm. tout ça, mais est-ce que ce serait la première au Canada à se doter d'une constitution?
Oui, constitution, oui. Il n'y a personne qui a ça en ce moment. C'est plutôt des reconnaissances dans les lois constitutionnelles et toutes les kits, puis les traités. Mais si j'avais vraiment...
OK. Ouais. C'est pour ça qu'on a une incertitude à savoir si ça va être reconnu.
C'est ça, exactement.
Mm-hmm. Alors, c'est intéressant parce que quand tu penses justement au Québec, il y a des discussions, même pour que le Québec se dote d'une constitution sans être indépendant, puis que ça pourrait être reconnu, mais qu'on le sait pas, on n'a pas de certitude. C'est vraiment intéressant de voir justement où c'est que ça va aller. Est-ce que le fédéral va contester? Est-ce que... Justement, dans le travail qui va être fait par les gens de la communauté Naskapi, de la nation Naskapi, est-ce qu'ils vont se dire, OK, on veut aller à fond dans notre volonté d'autodétermination sans considérer la légitimité d'être reconnu ou non, parce que c'est juste notre propre autodétermination, puis c'est tout? Ou est-ce qu'ils sont dans un rapport quand même de... Il nous faut une reconnaissance du régime au-dessus de nous.
C'est sûr qu'il leur faut une reconnaissance du régime. Exemple, on pense au fédéral. Exemple, on exclut le Québec. Là. C'est vraiment parce que c'est le fédéral qui leur donne certains programmes sociaux, qui a déjà la protection de la jeunesse, qui dirige les lois sur la langue, etc. T'sais. Fait que vraiment, il faut que le fédéral dise « OK, on vous dévolue ces pouvoirs-là à vous autres, puis là, vous en occupez. » Mais si le fédéral ne reconnaît pas, comment qu'ils vont prendre ces pouvoirs-là?
Ça pourrait être vraiment une des grosses batailles judiciaires qui dureraient 10 ans ou plus, là, comme on voit avec le Québec. Là.
Ouais, c'est ça. Mais il y a déjà des grosses batailles judiciaires. Là. C'est juste qu'on le voit pas, puis c'est sous la table. C'est tout dans la réconciliation, mais on le voit juste pas.
Ouais, y a une grosse... En tout cas, de ce que j'ai compris de mon... J'ai eu un cours sur les enjeux autochtones, c'est ça. Les questions autochtones sont vraiment... enchevêtré dans de la judiciarisation constante, de la juridicisation. C'est-à-dire que autant qu'on veut accomplir certaines choses, il y a toujours l'enjeu du droit qui revient parce qu'on est pris quand même dans le cadre de la loi sur les Indiens puis tout ça. Puis il y a un cadre constitutionnel canadien aussi qui quand même balise certaines choses, mais c'est un peu obsolète parfois.
Félix, veux-tu intervenir? Non.
Non, non. Mais, peut-être que ce serait intéressant, peut-être que ça va mener à la création d'un nouveau palier.
Mais ouais.
Ça serait malade.
Ben, c'est ça. Puis il y a aussi d'autres nations au Québec, je sais, qui envisagent ça, notamment chez les Inuits. C'est beaucoup envisagé aussi. Il y a beaucoup de gens qui poussent pour avoir des projets, un projet de constitution. Mais de ce que j'ai compris en jasant avec une des leaders, en fait, Inuits à Mashuach, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans la communauté, puis aussi, autant qu'il y a des gens qui vivent sur le territoire de Mashuach, ben c'est pas les seuls Inuits t'en as sur la côte, parce que le Mashuach, c'est au Lac-Saint-Jean, t'en as sur la côte nord, dans d'autres communautés qui pensent différemment, t'en as qui vivent hors communauté qui pensent différemment, c'est vraiment un bordel, puis les Naskapis sont chanceux, parce que ça, ils sont un petit groupe quand même géographiquement, qu'on pourrait dire...
Ben, concis, rapprochés.
Ouais, c'est ça.
Mais en même temps, il faut penser, est-ce que le fédéral voudrait vraiment un nouveau palier? Non, parce que ça serait, encore une fois, donner des pouvoirs qu'il aurait pu. Puis,
mais en même temps, dans une logique de réconciliation.
C'est ça.
Puis dans une logique, de tension avec le Québec, mais pas de tension, mais de rivalité avec le Québec pour les champs de compétences, qui est quelque chose de constant. Mm-hmm. Parce que le Québec a quand même, c'est ça, un rapport puis un droit de regard quand même sur son territoire. Donc, si on se rappelle, je reviens en arrière, là, 20-25 ans, avec la loi sur la clarté, avec ce que disait le fédéral, notamment Jean Chrétien, Stéphane Dion, il disait, si le Canada est divisible, donc l'indépendance du Québec est possible, ben le Québec l'est aussi, ce qui est faux juridiquement, mais le fédéral pousse le plus possible pour un morcellement potentiel du Québec. Mm-hmm. Donc, de créer un palier de gouvernement supplémentaire sur le territoire du Québec qui serait un interlocuteur direct avec le fédéral, qui nécessiterait seulement la reconnaissance du fédéral, à quelque part, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Puis moi, je me demande justement, où est-ce que le gouverneur du Québec, où est-ce que Yann Lafrenière, le ministre des Affaires autochtones au Québec,
va avoir son mot à dire.
Se positionne là-dedans C'est intéressant. Mm-hmm. Mais en tout cas, à mon sens, je ne veux pas avec ça dire que comme je suis contre d'aucune manière, parce que pour moi, l'autodétermination du Québec, c'est bon pour le Québec, mais c'est autant bon pour toutes les nations que sur le territoire du Québec. Là. Mais il faut se poser la question, ça va être quoi le régime démocratique sur la grandeur du territoire du Québec qu'on veut avoir justement? Est-ce que on a déjà des problèmes de chevauchement de palier de gouvernement avec le fédéral. Mm-hmm. Ben, est-ce que ça va créer encore des complexités de chevauchement? Ouais. En tout cas,
chose certaine, à travers tout ça, c'est qu'on risque de voir une certaine montée peut-être de l'indépendantisme au Québec, surtout si cette communauté-là autochtone réussit à se doter d'une constitution avant même le Québec. Mm-hmm. Parce qu'on se rappellera que depuis 1982, le Québec ne fait pas partie de la Constitution canadienne. Donc, ça va être à suivre dans ce dossier-là. Merci beaucoup pour ta chronique, Liliane.
Plaisir, merci.
Renaud, avant la pause, je te laisserai débuter un peu sur ta chronique parce qu'il nous reste quelques petites minutes.
Oui, c'est ça, en une minute et quart à peu près. Ouais, là.
Vas-y donc.
Moi, je vais vous parler du projet de loi 39 portant sur une réforme des affaires municipales. C'est très intéressant. C'est porté par la ministre André Laforêt, députée de Chicoutimi. Et en fait, en vous expliquant c'est quoi ce projet de loi qui vient d'être adopté d'ailleurs en même temps que le projet de loi 15 sur la santé, eh bien, je vais prendre cet exemple-là pour montrer que le modèle québécois démocratique, autant qu'on peut le critiquer puis qu'on le critique effectivement ici à l'émission, est quand même un modèle très fonctionnel puis inspirant qui se distingue en Occident pour beaucoup de manières et qui est un îlot... de démocratie fonctionnelle qui devrait être inspirant, puis dont s'inspire de nombreux endroits à travers le monde. Je crois que ça va être très intéressant de l'aborder ça, se donner de la perspective un peu sur notre situation.
Super, ben merci pour ce petit topo de ta chronique qui va nous suivre après la pause. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite et on se revoit dans quelques minutes. Nous sommes de retour encore avec des enjeux de jingle qui ne semblent fonctionner à une autre reprise. Donc, en retour de la pause, Renaud, juste avant, tu nous as présenté un peu ta chronique. Donc, je vais te laisser maintenant entrer dans les détails du projet de loi, puis qu'est-ce que ça implique.
Oui, alors, on en avait discuté au début de la session du fait que, d'abord, ça fait un certain temps quand même qu'on dit que les villes sont un peu l'opposition principale au gouvernement au Québec depuis, disons, 2021, des dernières élections municipales où on avait vu un grand renouveau, une grande percée de relève au municipal de jeunesse qui avait, avec des enjeux différents où on mettait davantage d'accent sur la qualité de vie, l'environnement. On peut penser à des leaders comme Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, Évelyne Baudin ici, la mairesse à Sherbrooke. On peut penser à peut-être Stéphane Boyer à Laval, Bruno Marchand à Québec, des gens comme ça, qui parfois clashent assez durement avec le provincial, avec beaucoup de revendications. Et ces revendications-là ont été adressées dans le nouveau projet de loi 39, qui est, à mon sens, un exemple de concertation, comme ça peut bien se faire au Québec, c'est-à-dire qu'on va quand même on va écouter les acteurs impliqués dans un dossier, on va prendre en compte les intérêts du gouvernement, on va prendre en compte ce que dit l'opposition également, pour arriver à un projet de loi qui va représenter la volonté générale. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très inspirant, ce qui s'est fait avec le projet de loi 39. Donc, qu'est-ce que ça fait en gros, ce projet de loi qui est adopté, donc maintenant la loi 39, on pourrait dire. Donc, en gros, c'est de donner, là-dedans, dans ce projet de loi-là, on donne des nouveaux pouvoirs aux municipalités, on leur donne la marge de manœuvre dont ils réclamaient depuis longtemps davantage de marge de manœuvre, parce qu'on le sait, on en a parlé, les municipalités font face à de nombreux défis, que ce soit en termes de logement, en termes d'itinérance, en termes de santé mentale. Ce sont les premiers à être là sur le terrain pour répondre à des problèmes, disons, communautaires. Et ils n'ont pas toute la marge de manœuvre nécessaire pour gérer ça. Et donc, là, le gouvernement du Québec leur en donne davantage. On peut aussi penser peut-être à l'environnement. Je vais vous parler d'un certain nombre de choses qui ont été accordées aux villes. D'abord, une longue demande des villes est répondue, c'est-à-dire le fait de pouvoir percevoir un point de TVQ, donc la taxe de vente du Québec, au niveau municipal. Il va y avoir un point de pourcentage qui va être dévolué aux villes, ce qui donne là une marge fiscale supplémentaire aux villes pour gérer de nombreux enjeux. On parle aussi de maintenant d'une capacité de taxer supplémentaire. Donc, taxer quoi? On parle de, par exemple, de taxer des logements vacants. En fait, on ne met pas d'obligation. Par contre, on permet aux villes qui le désirent, si elles le veulent, de pouvoir taxer les logements vacants, ce qui fait en sorte de freiner, si on veut, la spéculation immobilière qu'ils pourraient avoir et donc la nécessité pour les propriétaires de répondre davantage à la crise du logement en rendant leur logement disponible pour la population. Et ensuite, on parle de la capacité de taxer les véhicules polluants, notamment en fonction de leur consommation d'essence ou en fonction de la cylindrée du véhicule. Ça, c'est intéressant parce que...
C'est-à-dire, Legault chialait beaucoup, la taxe orange, il chialait beaucoup sur la taxation des véhicules.
C'est ça, polluants, c'est ça. Donc, c'est ça, Québec solidaire a fait ces propositions-là en campagne électorale, notamment. Mais en fait, Québec solidaire, c'est que c'était très uniformisé. Ouais. C'était le gouvernement du Québec qui taxait directement. Mm-hmm. Mais ce qu'on fait ici, c'est qu'on dévolue cette potentialité de le faire aux villes selon comment ils veulent le faire, ce qui serait le plus adapté à leur réalité. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que si on prend, par exemple, la ville de Montréal, la ville de Laval, la ville de Québec, même la ville de Sherbrooke, c'est beaucoup plus concevable de taxer des véhicules polluants, notamment des camions, des VUS, que, par exemple, à Dolbeau-Mistassini. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a des villes en région où c'est davantage une nécessité, parfois, d'avoir ce genre de véhicule. Donc, on donne vraiment une capacité différenciée de faire les choses. Je trouve ça intéressant. Puis, c'est aussi très pragmatique. On s'est rendu compte qu'effectivement, le Québec, c'est quoi le secteur qui pollue le plus? Ben, c'est les transports. On doit s'engager via les engagements qu'on a faits en environnement de réduire nos émissions. C'est un moyen de le faire.
Oui, puis si tu me le permets aussi, on parle des grandes villes comme Sherbrooke, Montréal, Québec, Laval. Bon, ça va peut-être aussi mettre de l'avant le transport en commun. Parce que tu sais, on sait ici à Sherbrooke, à Montréal, le transport en commun est présent. partout à travers la ville. Tu sais, donc si ben le palier municipal se met à taxer les véhicules qui polluent le plus, ben déjà là, on se rapproche un peu plus des engagements, tu sais, qui ont été faits.
Exact. Donc, ça, c'est merveilleux. C'est justement à ça que ça va servir, en fait, cette taxe-là. Ça va être pour financer les transports en commun. Puis, on le sait, il y a des enjeux, notamment à Montréal, de la hausse des tarifs, à Laval également. D'où est-ce qu'on peut aller chercher l'argent, justement, pour financer le transport en commun? C'est super important. Après, le gouvernement, bon, c'est sûr qu'il... Est-ce que c'est sa responsabilité aussi, ces enjeux-là? Oui. Donc, à quelque part, est-ce qu'il se déresponsabilise puis il kick la canne vers le palier inférieur? On pourrait le percevoir comme ça, mais en même temps, on donne la capacité de le faire. Donc, c'est quand même intéressant. Autre affaire très importante, on donne beaucoup de marge pour la protection des milieux naturels, qui est aussi une demande importante des villes. En fait, il y a des complexités juridiques, mais en gros, les propriétaires de certains terrains vacants, avant, si la ville voulait protéger ce terrain-là, qu'il soit un terrain naturel, par exemple un boiseau ou quoi que ce soit, il allait pouvoir poursuivre la ville, ce qui est vraiment obsolète. Et donc là, le gouvernement a légiféré en ce sens-là. Et ça, globalement, tout ça, ça a été qualifié par la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, de très courageux et d'un changement de paradigme. Donc c'est des mots forts. On pourrait aussi parler de la Fédération québécoise des municipalités qui dit que ça faisait longtemps qu'on avait besoin de ça. Donc, on salue globalement ce que fait André Laforêt dans ce projet de loi-là. Et ça n'a pas été passé sous le radar au niveau des parlementaires. Parce que les parlementaires, dans l'étude détaillée du projet de loi, les parlementaires ont pu apporter de nombreux amendements, notamment de la part de l'opposition. Et ça a été accueilli par le gouvernement, ça a été adopté par la ministre. Donc, on sent une écoute de la part de la ministre pour ça. Et ça m'amène à ce qu'on appelle, c'est ça, à chaque année, il y a une tradition au Québec, via le journal La Presse, de faire une espèce de
classement
des parlementaires, c'est ça. Chacun des 125 députés va voter qui c'est qui considère étant le meilleur député sur tel enjeu, qui c'est le meilleur orateur, qui c'est la meilleure critique de l'opposition, qui c'est le meilleur ministre, tout ça. Et cette année, en fait, on pourrait rentrer là-dedans si on a du temps plus tard, mais au niveau des ministres, ceux qui ont été le plus appréciés de l'ensemble des parlementaires, on a Lionel Carman, donc ministre délégué à la santé et aux services sociaux, et on a également André Laforêt. Donc, on salue beaucoup son travail à ce niveau-là. Alors, on pourrait reparler de comment est-ce qu'elle a fait les choses au Saguenay, c'est un autre enjeu. Mais au niveau de ce qu'elle a fait en tant que ministre, je pense qu'il faut vraiment... en tout cas, moi, je lui lève mon chapeau sur ce qu'elle a fait avec ça.
Est-ce qu'on sait si cette initiative, le PL39, c'était comme dans les intentions de François Legault ou c'est vraiment une initiative comme plutôt plus personnelle de Laforêt?
Ben là, je pense qu'on s'en va dans les coulisses, puis je n'ai malheureusement pas...
J'étais contre ça, c'était juste une petite question.
Moi, je ne saurais pas dire.
Mais en tout cas...
Mais bref, c'est ça. On peut aussi se questionner sur la mise en œuvre, comment les villes vont réussir à identifier l'immatriculation des véhicules, tout ça. Puis est-ce que ça risque pas d'amener un enjeu du genre... Ben là, je sais pas, je spécule, mais mettons c'est la matriculation, puis c'est là où tu achètes ton véhicule. Ben, ça veut-tu dire que si, mettons, la ville d'Alma, elle décide, ah, ben moi, je vais taxer les VUS, mais les gens vont juste aller acheter leur VUS ailleurs.
Ouais.
Donc, il va y avoir des enjeux de mise en œuvre. Il va falloir qu'il y ait de la concertation. Par contre, autre aspect positif, c'est qu'on donne ce pouvoir-là à la fois aux municipalités, mais également aux MRC. Donc, on peut avoir une concertation à un niveau plus global. Ça va être important que ça ait lieu, cette concertation-là. Maintenant. Quand on prend de la perspective sur ça, j'ai pris ce projet de loi-là en exemple pour montrer qu'en fait, au Québec, on est capable, au-delà des joutes idéologiques, des batailles qu'on peut faire parfois, on est quand même capable d'écouter l'opposition, d'écouter les différents milieux, ce qu'ils disent, puis de voir, en termes de gros bon sens, qu'est-ce qui est le mieux pour la société. Puis je pense que c'est un bon exemple, ce projet de loi-là. Puis... Je contrasterais ça avec ce qu'on voit en ce moment à la Chambre des communes à Ottawa. Je ne sais pas si vous avez suivi le dossier de la taxe carbone. Si vous suivez Pierre Poilievre sur les réseaux sociaux, vous en avez certainement entendu parler parce qu'il n'arrête pas de marteler la taxe carbone comme étant vraiment ce qui fait en sorte qu'on est pauvre au Québec puis qu'on n'est pas capable de manger. C'est hallucinant. Puis il y a un niveau de vérité qui existe par rapport à ça. On pourrait en parler. Je peux y concéder certains points de vérité, mais il y a un niveau de désinformation qui a lieu également, qui est révoltant. On martèle notamment que le Québec fait partie du marché du carbone canadien, ce qui est faux. On dit le Bloc québécois est l'allié de Trudeau puis du NPD pour rendre pour l'appauvrissement des Québécois puis tout ça, ce qui est complètement faux parce que le Québec, je tiens à le rappeler, a son propre marché du carbone indépendant en partenariat avec la Californie. Yeah. Et ça, c'est complètement ignoré par Poilievre. Et là, face à cette obstination-là de Poilievre pour abolir la taxe carbone et le fait que le gouvernement dit non, c'est notre projet, puis c'est nous le gouvernement, avec le NPD, on est d'accord avec ça, ben ils se mettent à faire de l'obstruction parlementaire à un niveau, mais stupide et théâtral. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, dans les derniers jours, ils ont déposé plus de 100 amendements pour bloquer les travaux au Parlement à Ottawa et ainsi retarder les affaires courantes qui doivent être traitées et faisant en sorte que, même durant la nuit, les parlementaires doivent travailler sur différentes choses. Mais c'est des amendements complètement stupides. C'est juste des excuses juste pour entraver les travaux du Parlement. C'est dégueulasse. Puis on pourrait parler de la rhétorique générale de Pierre Poilievre. On pourrait parler du fait qu'il va sortir un documentaire sur le logement où apparemment ce serait truffé d'erreurs, d'inexactitudes, du fait qu'on manque de contexte pour traiter certaines statistiques, certains enjeux. Bref, la polarisation au Canada en ce moment, c'est extrêmement inquiétant. Les discours qu'on a sur toutes sortes d'enjeux, moi, je trouve ça très inquiétant. Je compare ça au Québec, puis je me dis, mon Dieu, on peut se consoler sur le fait que notre démocratie est plus en santé. On ne parlera pas des États-Unis, hein, avec Donald Trump, qui se met à nous dire qu'il pourrait peut-être être un dictateur s'il revient au pouvoir. On ne parlera pas de l'Europe où il y a une montée d'extrême droite. On en a en masse parlé dans nos différents épisodes qu'on a fait. Et tout ça pour dire que, en fait, l'Institut du Nouveau Monde, qui publie à chaque année un rapport qui s'appelle l'État du Québec, pour l'État du Québec 2023, il aborde le fait que le modèle québécois démocratique est un îlot de fonctionnalité puis d'inspiration à travers l'Occident, parce qu'ici, on n'est pas trop touché par ces vagues de populisme et de polarisation. Là, ben, évidemment, on est touché pareil. Puis il faut continuer à être vigilant pour la suite, là, parce que je pense quand même que le climat politique peut s'envenimer facilement au Québec. Mais quand on regarde la situation actuelle, quand on regarde la social-démocratie au Québec, toutes ces choses-là, quand on regarde notre culture du consensus, du dialogue, de la concertation, pour arriver à faire nos politiques publiques, je pense qu'on peut quand même se saluer, puis qu'il ne faut pas croire que tout est noir dans le modèle politique québécois, le système politique québécois. On peut voir, je veux dire, on peut aborder d'une façon pessimiste les négociations des conventions collectives, mais on peut voir ça comme étant une santé démocratique également. Le fait qu'on se scandalise beaucoup de la disparition des médias en soi, le fait qu'on en parle, c'est un signe également qu'on tient à notre démocratie puis à la pluralité des opinions, à la pluralité des perspectives. Donc, tout ça me fait dire qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut cultiver ce jardin, cultiver ce système politique québécois qui est unique au monde puis qui est modèle d'inspiration à bien des égards.
Parfait. Ben, écoute, Renaud, merci pour cette belle chronique. Merci, Félix. Merci, Liljeanne, pour cette belle heure d'actualité, en fait. Puis, chers auditeurs, auditrices, merci de votre écoute. On va se revoir la semaine prochaine pour notre dernière émission de la session. Et sur ce, au nom des attachés de presse, je vous dis bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.